I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau et pour une dernière fois en 2021 pour discuter d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Et avant de démarrer l'épisode, souvenez-vous, si vous aimez Année Lumière, vous pouvez soutenir l'émission via le site Utip. Un immense merci déjà à ceux qui m'aident tous les mois à produire la meilleure des émissions possibles. Ce mois-ci, mon invité est journaliste musique, cinéma, série, pop culture. Il est aussi un maître de l'art discret de la toy photographie. Vous avez pu notamment le voir dans Pop Live sur MCM et vous pouvez retrouver sa douce voix tous les matins, 6h-10h, dans le Morning Rock de WeFM. Cet homme formidable et aux mille talents, c'est Joe Youm. Salut Joe.
Salut Thibaut, ça va?
Ça va très très bien. Je suis très très heureux de t'avoir dans l'émission.
Très content d'être là aussi. C'est vraiment un plaisir et je dois dire que j'ai beaucoup aimé ton inhalation juste avant ta prise de parole, ce qui a été presque comme une... Tu sens qu'on va plonger dans quelque chose.
Alors je sais pas,
j'ai beaucoup aimé ça.
Toi qui connais la radio,
c'est assez sonore, il y avait vraiment un bonsoir.
Et c'est pas bien du tout à faire
si,
ça.
Non, si, moi j'adore ça.
Ah ouais,
je suis un fan de trucs genre ASMR et tout. Donc.
Voilà, moi je sais, je donne
tout. J'ai trouvé ça super.
Je vous donne cette
super.
Respiration.
Voilà.
Très bien, ça me fait plaisir. Mais pour l'instant, ce mois-ci, se rapprocher un peu plus de notre époque. Pour discuter du coup d'un millésime qui sera familier à beaucoup, une année où les héros de nos films préférés changent et se redessinent. Pour combattre le crime, ils préfèrent alors les hauteurs au bitume et le costume moulant au badge de police. Ils nous ressemblent aussi un peu plus, ces héros, losers magnifiques d'une apocalypse ou modèles vieillissants et romantiques dans un monde définitivement cynique. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 2004. Usher, on écoute ça en 2004. On dansait sur ça en 2004. Est-ce que tu dansais sur ça de show en 2004?
Alors non, je dansais pas sur ça en 2004. Cela dit, cela dit, tube, hein, donc aucun problème avec ça. Non, en 2004, j'étais, je crois, beaucoup plus fermé qu'aujourd'hui musicalement. Tu sais, j'étais un enfant du rock et du métal. Je ne jurais que par ça. Enfin, ce qui est pas totalement vrai, mais c'est vrai que c'était pas forcément ma cam. Alors qu'aujourd'hui, je suis le premier à reconnaître les qualités des tubes du début des années 2000. Tu parlais là pendant qu'on écoutait ça aussi de la sortie de Toxic de Britney Spears.
Et oui.
Je pense qu'à l'époque, j'étais très probablement le premier détracteur du truc, alors qu'aujourd'hui,
tu prends quoi.
Très bien entendu.
Oh, Britney,
bien
free entendu. Britney.
J'accueille à bras ouverts. Personnalité de l'année.
Alors effectivement, 2004, c'était le tube de 2004.
Ouais.
Pourquoi avoir choisi cette année-là, Joe?
Je pense que la raison, en fait, elle est assez simple. J'ai essayé de me souvenir d'une année où pour ma part, c'était vraiment l'opulence en termes de cinéma. Pas dans le sens sortie, mais dans le sens où sortie personnelle. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je faisais chauffer ma carte UGC, carte illimitée, pardon pour la pub, tout le temps. C'est-à-dire, j'étais tout le temps fourré au cinéma. En préparant un petit peu l'émission, j'ai fait un retour un petit peu sur les sorties de 2004 et j'étais halluciné de voir le nombre de films que je suis allé voir en salle à cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai plus tellement ce loisir. Il faut que je sélectionne beaucoup et du coup, beaucoup de films finissent par être vus à la maison une fois qu'ils sortent en VOD ou en DVD Blu-ray parce que j'ai beaucoup moins le temps d'aller au cinéma qu'avant. Du coup, 2004, pour moi, c'était vraiment l'opportunité de venir dans cette émission et de passer un moment avec toi et de me souvenir de cette époque un peu bénie où je pouvais aller au cinéma tout le temps parce que j'avais que ça à foutre globalement, on va pas se mentir.
Et plus maintenant, putain.
Tu vois, plus maintenant. Et puis, au-delà de ça, il y a des films qui ont beaucoup compté pour moi, qui comptent encore beaucoup aujourd'hui. Et j'avais aussi un petit peu envie de me mettre à cette épreuve-là, c'est-à-dire revoir des films dont certains que j'avais pas vus depuis un petit moment et voir si j'ai grandi avec eux et comment en les revoyant aujourd'hui ma, mon regard a changé sur certains de ces films-là. Donc voilà, je trouve que c'est toujours un boulot intéressant à faire.
Petit travail introspectif, thérapeutique peut-être, ouais, on ne sait pas, mais
en tout cas, voilà, il y a de la réflexion. Ouais.
Eh bien, parfait. Alors, 2004, c'est l'année où un certain Mark Zuckerberg lance un petit site nommé Facebook dans sa chambre de l'université d'Harvard. L'année aussi où un séisme et un tsunami ravagent l'océan Indien et font plus de 250 000 morts, où éclate le scandale de la prison irakienne d'Abu Ghraib, lieu de torture perpétré par les soldats américains, et où, paradoxalement, est réélu George W. Bush comme président des États-Unis. En 2004, les sportifs acclamaient la 6e victoire d'affilée de Lance Armstrong au Tour de France. Les gamers disaient bonjour au MMORPG World of Warcraft, quand les fans de série disaient au revoir, eux, à la série Friends, arrêtée après 10 saisons et 236 épisodes.
C'était la fin de Friends.
Mais 2004, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. Cette année-là, Michael Moore, souvenez-vous, recevait la Palme d'Or des mains de Quentin Tarantino pour son incendiaire Fahrenheit 9/11. Tom Cruise était grisonnant et magnifique dans Collateral de Michael Mann, quand Jim Carrey et Kate Winslet jouaient à Je t'aime moi non plus dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Quand il ne se ruait pas en masse pour voir Shrek 2 et la Passion du Christ, les Américains raffolaient alors des biopics comme Aviator, Ray, Alexandre. Dans le reste du monde, on applaudissait 2046 de Wong Kar-wai, La mauvaise éducation d'Almodovar ou L'esquive d'Abdelatif Kechiche. Et enfin, les Français s'extasiaient, eux, devant la voix des choristes de Christophe Baratier, premier du box-office national, avec plus de 8 millions de spectateurs. Mais cette année-là, il y a un genre particulier qui amène le public dans les salles obscures. Un genre fait de collants, de pouvoir et de grandes responsabilités, mais aussi de personnages qui doutent, qui questionnent, qui incarnent, qui guident et qui amènent un peu de lumière dans un monde qui, on l'a vu, semble en avoir bien besoin. Un type de film très populaire qui passionne autant qu'il irrite et qui est au cœur de notre premier thème. Et on l'a chanté, on l'a meumeumé.
C'est fou de se dire, Danny Elfman, quand même, le nombre de thèmes inoubliables qu'il a réussi à. En venant vraiment de la pop alternative américaine, quoi. Tu vois, c'est vraiment c'est le chanteur de Oingo Boingo. Tu voyais ce groupe dans les années 80, tu ne disais pas, oui, bah, ce mec va un jour composer parmi les plus grandes partitions de la fin des années 90 et du début des années 2000.
Et teinter tout un genre, finalement.
Mais complètement. C'est-à-dire que le style Elfman, encore aujourd'hui, même si beaucoup de compositrices et compositeurs lui ont succédé, il a vraiment irrigué du premier Batman, et puis pour moi, Spider-Man 2, c'est vraiment l'apothéose de son savoir-faire sur le genre super-héroïque. C'est fou à quel point sa patte imprègne encore aujourd'hui ce genre, quoi.
Effectivement, bah, tu l'as dit, donc Danny Elfman, la musique de Spider-Man 2, puisqu'effectivement Spider-Man 2 va être l'un des films au centre de notre premier thème, puisqu'en 2004, Spider-Man 2 est l'un des gros films de l'année, mais il n'est pas le seul. Il y a également Hellboy, il y a également Les Indestructibles, il y a aussi The Punisher, Blade Trinity, Catwoman, bref, tous ces films-là ont un seul point en commun, ce sont tous des films de super-héros, et oui, parce que 2004 est une grosse année, une grande année du genre de super-héros, et c'est pour ça qu'on va en discuter ensemble, Joe. Alors juste pour remettre un petit peu de contexte, 2004 est une année qui est nichée au cœur d'une période effectivement où le genre super-héroïque a un regain comme ça, réapparaît, puisque quelques années auparavant on a eu X-Men en 2000 qui a effectivement redonné un boost, il y a eu Spider-Man qui effectivement a été un énorme succès avec plus de 400 millions de dollars au box-office américain, donc ça a été un impact assez majeur. Et pour vous donner un contexte à quel point effectivement au début des années 2000 il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de ce genre là dans les années 90, la part de marché du genre super-héroïque oscillait entre 0 et 3% sur le box-office américain. Dans les années 2000, là où effectivement on en parle en 2004, Tout de suite, on est à 6%. Donc déjà, on voit que ça, ça a plus que double à ce niveau-là. Actuellement, cette part de marché du genre super-héroïque oscille entre 12 et 25%. Donc déjà...
Scorsese voilà, en PLS.
Voilà, Scorsese n'est pas très, très bien. Mais voilà,
c'est qu'en fait... Il est pas bien, là.
Voilà, ce genre-là était à peu près un peu moribond dans l'année 90. Ouais. Au début des années 2000, il y a effectivement un plateau qui se crée où il est là, il s'installe, il y a des films iconiques qui apparaissent. On va parler de Spider-Man 2, il y aura également The Dark Knight plus tard, etc., qui vont installer un peu le genre dans l'imaginaire collectif, dans les habitudes.
Et aujourd'hui, Batman Begins, c'est un an plus tard, c'est 2005. Hein, si
oui, voilà, exactement.
Pas,
hein, et Batman Begins est là, donc ça enchaîne. Il y a vraiment pas mal de choses qui se mettent en place. Et bon, maintenant, on connaît effectivement, c'est un genre, on va dire, immanquable, incontournable. Alors, Spider-Man 2 de Sam Rémi avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, qui fait donc la suite au carton du 1. Tu te souviens, toi, de la première vision, ta première vision de Spider-Man 2? Tu parlais justement de ta carte illimitée, etc. etc.
Au cinéma. J'avais vu le premier en salle déjà. À l'époque, on savait pas si on était fan de cinéma de super-héros. Les films étaient beaucoup plus rares qu'aujourd'hui. Mais j'étais un avide lecteur de comics. Et mon premier choc cinématographique, c'était la vision en salle. Je me souviens que mon oncle m'avait emmené beaucoup trop tôt, je pense, voir le premier Batman de Tim Burton en 89. J'avais 7 ans.
Hein, c'est un truc récurrent, hein, les gens qui vont voir trop tôt des films qui font peur. Dans l'année lumière, on a beaucoup ça. Hein, donc...
Quand tu vois Batman à 7 piges en salle, c'est quand même un sacré délire. Et donc, le genre super-héroïque, tous médias confondus, pour moi, c'était quelque chose d'important. Donc, la première fois que j'ai vu le premier Spider-Man de Sam Raimi au cinéma, je me souviens que même s'il y avait eu X-Men, je m'étais dit, OK, là, en fait, y a non seulement un réalisateur que je révère, Sam Raimi, qui signe un film de super-héros, un de mes super-héros préférés. C'était assez fantastique, mais il y avait quand même, j'étais suffisamment adulte pour capter qu'il y avait quand même des scories, il y avait des trucs dont on sentait que Spider-Man 1 était la possibilité d'un grand film, un peu tiré vers le bas par certains petits problèmes qui font qu'on voit encore plus aujourd'hui d'ailleurs. Et Spider-Man 2, pour moi, c'était vraiment l'aboutissement de la vision de Sam Raimi.
Parce que pour remettre du contexte, Spider-Man 1, donc c'est Spider-Man contre le bouffon vert. Spider-Man 2 est donc Spider-Man contre Docteur Octopus.
Spider-Man 2, c'est plus un film sur Peter Parker qu'un film sur Spider-Man, finalement, qui est presque un personnage secondaire. Alors évidemment, il y a des gens qui vont grimper au plafond en disant ça, comme Spider-Man finalement, parce que c'est lui le héros, c'est lui le centre du film, mais c'est le super-héros confronté à son quotidien et à comment trouver l'équilibre entre sa vie perso et sa vie super-héroïque. Sauf que là, on n'a pas affaire à un mec comme Tony Stark ou comme Bruce Wayne qui ont Alfred, Jarvis, des millions de dollars en banque. On a affaire à un ado qui va en cours, qui est tout seul, qui n'a pas de sidekick, qui n'a pas de figure tutélaire puisque son oncle est mort dans le premier film, qui ne vit plus avec sa tante. On se retrouve vraiment face à un film qui nous présente le destin d'un mec qui foire tout dans sa vie, sauf le fait d'être un super-héros. Mais en fait, c'est tellement le merdier dans sa vie et il est tellement plein de frustration et que même ses super pouvoirs vont finir par disparaître, ou en tout cas par lui faire défaut.
C'est vrai que t'as une dimension quand même assez saisissante qui est que Spider-Man, et c'est assez flagrant parce qu'en plus là on en parle, on est en 2021, il y a le dernier Spider-Man 3 No Way Home effectivement, qui est sorti, donc la comparaison est encore plus criante. Là on a un Spider-Man, comme tu dis, galérien, qui n'a pas le sou, qui vit dans un appartement tenu où il peut pas payer effectivement son loyer. Il est livreur de pizza, mais il arrive pas à concilier effectivement ses petits boulots, etc.
C'est la première scène du film, il se fait virer.
Voilà, ces histoires de... Alors, avec Mary Jane, ça se passe pas bien, ces histoires de cœur, encore une fois, il n'arrive pas à y être. Et que c'est comment, effectivement, sa vie de super-héros mange, grignote sa vie personnelle à lui, et comment ça le remet en cause. Et il y a vraiment cette notion, tu l'as dit, de questionnement, de se dire comment est-ce que je peux gérer ces deux vies en parallèle. Et c'est drôle comme ce film-là, je trouve, c'est peut-être une autre époque aussi, mais t'as vraiment des grandes scènes, par exemple de Peter Parker avec le professeur Octopus, de Peter Parker avec le médecin qui est un psychologue, qui est un simili-psychologue.
Très magnifique scène.
Peter Parker va effectivement questionner le médecin et puis lui dire, c'est bizarre, je rêve que je suis Spider-Man, et en même temps quand je suis Spider-Man j'ai pas mes pouvoirs, donc en fait effectivement il questionne ça. Et donc t'as une scène où il parle avec un psy et le mec lui, pendant deux minutes, il lui dit, vous êtes pas obligé d'être Spider-Man, vous êtes pas de machin. Une scène qui serait impensable aujourd'hui dans un MCU.
Bah, complètement. Mais en fait,
scène de psychologie pure et dure, de dialogue.
Ça faisait partie des bonnes surprises de la préparation de cette émission de revoir Spider-Man 2 parce que je me rends compte que en fait, ce film gagne aujourd'hui en force. Oui. De par sa lisibilité, que ce soit dans la réal, mais aussi, comme tu le soulignes, dans l'écriture et dans la narration. Ouais. C'est-à-dire que c'est à la fois un film extrêmement ambitieux pour Sam Raimi, pour le directeur photo Bill Pope, qui fait un boulot absolument insensé sur ce film. Et à côté de ça, en termes d'histoire et de narration, tout est extrêmement fluide, lisible, simple. Il y a pas de ça ne prend à la fois pas le public pour un idiot et en même temps ça n'essaye pas de péter plus haut son cul et de complexifier à outrance l'intrigue pour ne mener à rien. C'est-à-dire qu'il y a toute scène sert le propos et amène avec une très grande intelligence les événements qui vont suivre. Et en fait, ce qui fait que quand on se retrouve au climax final et que Mary Jane découvrant le visage de Peter Parker après qu'il ait redonné ses esprits au Docteur Octopus pousse une sorte de soupir de soulagement quand elle découvre que Peter est Spider-Man. Et bah en fait, nous,
c'est
en tant que spectateurs,
on
pousse exactement le même soupir de soulagement parce qu'on a été en apnée avec Parker pendant tout le film et on s'identifie vraiment à ce personnage. En fait, ce film, comme d'autres films de super-héros sortis cette année-là, nous propose quelque chose qui se fait de plus en plus rare dans ce genre. On a peur en fait pour les personnages. On vit avec eux ce qu'ils sont en train de vivre. Aujourd'hui, on est véritablement spectateur d'une sorte de gigantesque spectacle qui nous échappe totalement et dont on peut se sentir un petit peu exclu parce que finalement,
on prend moins le temps de creuser les traumas, on prend moins le temps de creuser les dramas et l'identification.
C'est très simple pour faire une comparaison, deux comparaisons toutes simples. Et c'est pas pour dire c'était mieux avant, c'est moins mieux aujourd'hui, c'est juste très différent. Mais aujourd'hui, dans les films de super-héros, on voit très peu les super-héros sauver des gens. On voit des super-héros qui passent 2h30 à réparer leurs conneries. dans Spider-Man 2, et même dans le 1 aussi, toutes les 5 minutes, Spider-Man sauve quelqu'un. Que ce soit des Kidam dans les rues de New York, que ce soit Mary Jane, que ce soit sa tante. Il passe son temps à sauver des gens, c'est-à-dire à faire vraiment des actions super-héroïques.
Et c'est drôle parce que on citait effectivement la partie psychologisante ou psychologique du film, où effectivement, on l'a dit, Spider-Man, Peter Parker, subitement n'arrive plus à tisser d'étoiles parce que dans sa vie ça va pas, donc psychologiquement il se bloque et du coup évidemment ses pouvoirs ne fonctionnent plus. Mm-hmm. Et ça revient à une idée qui est très forte dans la trilogie de Raimi, qui est l'organicité des pouvoirs de Spider-Man, ce qui n'existe plus du tout dans les nouveaux Spider-Man, où c'est de la technologie, et du coup tu perds toute une dimension passionnante du personnage, qui est que en fait, quand ta tête ne va pas, ton pouvoir physique et organique ne va pas. Là, c'est une dimension qui n'existe plus du tout dans le MCU.
Ouais, là-dessus, faut remercier James Cameron pour ce truc-là, parce que à la base, Spider-Man, sa toile, c'est quelque chose qu'il fabrique scientifiquement, et c'était l'idée du Spider-Man de James Cameron, qui est une des idées qui a été récupérée par
Sam
Raimi pour cette histoire
organique,
de toile organique. C'est
la
Cronenbergisation de Spider-Man. Mais effectivement, ça permet à Sam Raimi de développer des thématiques qui lui sont tout à fait propres, enfin qui sont propres à son cinéma, qui font que l'intégralité de sa filmographie est très cohérente et que Spider-Man se place là-dedans comme un pic.
Et comment donc là on est en 2004, Spider-Man 2 sort, c'est effectivement un film extrêmement attendu puisque le 1 a un petit peu bouleversé son genre, et pourtant encore toi 15-20 ans après, Spider-Man 2 il reste une référence, bien plus que le 1 même d'ailleurs.
Oui.
Qu'est-ce que Spider-Man 2 a révolutionné dans son genre et comment t'expliquerais le fait que ce film-là reste une référence encore aujourd'hui?
Déjà parce que je pense qu'avec avec un autre film en particulier dont on parlera probablement, Les Indestructibles, sorti la même année, il y a cette volonté de rendre le super-héros encore plus... qu'on puisse véritablement s'identifier au personnage super-héroïque. Par exemple, la comparaison est intéressante entre Batman et Batman le défi de Tim Burton. Le premier Batman a cartonné. D'une certaine manière, il souffre des mêmes scories que le premier Spider-Man de Sam Raimi. Et néanmoins, c'est un très très gros carton. Tim Burton reçoit carte blanche pour faire Batman le défi et il fait presque... J'adore Batman le défi, mais il fait presque un film anti-Batman et une sorte de film hardcore Burton. Sam Raimi, lui, prend le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on lui donne les coups des franges pour Spider-Man 2 et il va faire le film de Spider-Man le plus fidèle à l'esprit du personnage possible. Et de cette manière-là, je pense qu'il va vraiment proposer un film que les gens n'ont jamais vu parce que les gens qui vont au cinéma pour voir Spider-Man ne lisent pas les comics. Et donc, il se retrouve finalement devant un film qui prend le truc très au premier degré, un peu comme le faisait le premier Superman, mais d'une manière moderne, et avec un personnage d'adolescent auquel la cible la majeure partie du public peut véritablement s'identifier. Et puis à côté de ça, il propose aussi une mise en scène juste assez incroyable, qui fait qu'on se retrouve vraiment devant, en 2004 en tout cas, devant des choses qu'on n'a jamais vues sur un grand écran. Enfin, on parlait de la scène du train.
C'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui a dynamité le genre et qui aussi à mettre au crédit de la trilogie Spider-Man de Raimi, c'est qu'à l'époque, c'est en termes de VFX, en termes d'effets spéciaux, voir Spider-Man virevolter pendant de longues minutes à travers les buildings américains, aujourd'hui, ça nous paraît normal. À l'époque, c'était complètement taré d'avoir des scènes entières.
À l'époque, t'avais des frissons dans ton siège au cinéma. Tu te disais, mais comment c'est possible un truc pareil ? Et surtout, ça te procurait véritablement ce que ça ne parvient plus à faire aujourd'hui, ce sentiment de virevolter avec lui.
Liberté folle.
Et donc de liberté. Ouais. Ça avait ce truc galvanisant.
C'est jamais vu.
C'était du jamais vu. Et puis c'est surtout, il y avait cette sorte de truc presque tribal, quoi, tu vois. Où, en fait, ça me rappelle quand la première fois que je suis sorti de Jurassic Park, que j'ai eu la chance de voir au ciné à l'époque, où j'avais l'impression de marcher comme un vélociraptor. Ça me paraît complètement con de dire un truc pareil aujourd'hui, mais en fait, tu n'avais jamais vu des dinosaures bouger comme ça à l'écran, et tu sortais, tu te disais, ah mais ouais, en fait, Spider-Man, c'était la même chose. C'est-à-dire que tu voyais pour la première fois ce type virevolter avec aisance entre les buildings new-yorkais en tirant des toiles organiques depuis ses poignets. Tu disais, mais c'est fou, j'ai l'impression d'être avec lui, en fait. Ça fait encore essai aujourd'hui.
Il y a une scène où, tu sais, d'habitude, il virevolte, c'est dynamique, ça vole, c'est énergique, etc. Wouh, machin. Et tu as une scène à un moment donné où il vole, où justement il sort de chez le psy.
Ouais.
Et où subitement,
c'est très lent.
15, c'est très lent. Ouais. Et c'est très près de lui.
Il se laisse porter.
Et j'étais là genre, wow. C'est une espèce de lyrisme de juste, on dirait que t'es dans sa tête à écouter sa respiration.
Il y a de la mélancolie, quoi, tu vois.
Et c'est là qu'effectivement, ça marche plus et qu'il tombe.
Il y a de la mélancolie, il y a un truc...
Comment sans parole, juste dans la façon dont il vole, tu ressens sa mélancolie. Je trouve ça fort comme scène.
D'ailleurs, au même moment, si je me trompe pas, la musique se fait beaucoup plus discrète.
Oui, exactement.
Et on entend le vent.
Tout est atone, voilà, exactement.
On entend la brise new-yorkaise et les sons de la ville un petit peu au loin. Et il y a vraiment pendant l'espace d'un instant, quelque chose de très mélancolique.
Naturaliste, un peu.
Qui presque nous, en tant que spectateurs, nous prend de cours. Ouais, c'est ce genre de moment un peu suspendu dans le temps qu'on se permet moins aujourd'hui dans ce genre de film et qui apportait une touche d'authenticité supplémentaire.
Pour revenir effectivement avec ce que tu disais sur le fait que ce soit effectivement bien écrit, cohérent, solide et que effectivement tout ce qui était tissé au début du film se retrouvait à la fin.
Jolie métaphore.
C'est un film qui débute et qui se termine par un visage.
Ouais.
Celui de Mary Jane Watson, qui est, j'étendrai on va dire la réflexion même à toute la trilogie, c'est quand même le fil rouge de toute cette trilogie là. C'est-à-dire que si, comme on disait effectivement, Rocky n'est pas un film de boxe, c'est une romance, la trilogie de Spider-Man c'est un film d'amour, c'est une romance.
Oui, complètement.
C'est centré autour de la romance entre Peter Parker et Mary Jane Watson. Et c'est vrai que ce deuxième film s'ouvre sur une pub du visage de Mary Jane Watson et se termine sur le visage un peu en doute, un peu
complètement inquiet,
inquiet de Mary Jane Watson. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que le premier Spider-Man se terminait sur un Spider-Man optimiste, virevoltant entre les buildings.
Conquérant.
Le deuxième Spider-Man se termine sur Mary Jane qui dit à Peter, laisse-moi choisir, je sais que tu es Spider-Man, j'assume la responsabilité, même si c'est risqué, je veux être ta copine. Il y a un crime qui se passe dehors, elle lui dit go Tiger, et puis lui il s'en va, virevolte parmi les buildings. Le film pourrait se terminer là.
Non.
Mais Raimi décide de pas laisser le film se terminer sur Spider-Man qui virevolte dans les buildings. Il fait le contre-champ sur le visage de Mary Jane qui le regarde s'éloigner.
Ouais.
Et le film se clôt là.
Ouais, et puis elle le regarde avec, c'est comme si tout s'écroulait là dans ce plan. C'est-à-dire que dans ses yeux, t'as l'impression qu'elle dit merde, en fait, je crois que peut-être c'était mieux. Je comprends maintenant pourquoi il se tenait à l'écart. Et peut-être que c'était mieux quand je savais pas, et ça laisse augurer de tout ce qui va se passer dans le 3, qui est un grand film malade, mais qui va réserver des trucs incroyables. Mais c'est fou tout ce que Rémy installe déjà dans le deuxième opus pour son troisième opus, sans que ce soit souligné, sans que ce soit amené.
Il pose ça là, quoi.
Il pose ça là, et ça, ce plan final, il est vraiment représentatif de ça.
Et moi, je trouve qu'il raconte autre chose, ce plan final, comparé notamment au premier opus, c'est que, mine de rien, on est en 2004, on est donc 3 ans après le 11 septembre, puisqu'on a beaucoup, effectivement, cherché la première trace de ce traumatisme américain du 11 septembre dans le genre super-héroïque, et on a vu beaucoup The Dark Knight de Christopher Nolan en disant regarde, c'est le premier film post 9/11, c'est la première fois que le genre super-héroïque embrasse comme ça le trauma du 11 septembre. Et je trouve que ce Spider-Man 2, bien avant le The Dark Knight, déjà raconte quelque chose sur le rapport américain, le rapport new-yorkais au 11 septembre, parce que mine de rien, Spider-Man est peut-être le héros new-yorkais par excellence. Et en plus, la trilogie Spider-Man a une histoire avec le 11 septembre particulière, puisque le premier avait un teaser trailer où Spider-Man tissait une énorme toile entre les deux tours du World Trade Center. Un teaser trailer qui effectivement a été enlevé, qui reste sur internet, mais qui a été annulé suite au 11 septembre. Donc c'est déjà une trilogie qui était marquée du sceau du drama. Et ce second film, tu vois, mine de rien, il se termine sur une note un peu comme l'Amérique, sur une note de qu'est-ce qui arrive après, quoi. Il est plus du tout optimiste, il est plus du tout conquérant, il est plus dans le doute et dans la peur de ce qui arrive, plutôt que dans l'optimisme fou du premier.
J'ai un peu de mal avec ça, parce que c'est pas que je suis pas convaincu par cette lecture, mais je pense qu'elle t'est personnelle. Tu la partages avec pas mal de monde, je sais bien, mais je suis pas sûr que Rémy avait ça en tête en faisant son film. Alors que tu peux pas nier que Nolan sa trilogie de Dark Knight, c'est conscient, les références au 11 septembre. Et elles sont là, on aime ou pas comment c'est amené, mais ça fait partie du truc. Je suis pas sûr que Spider-Man 2...
Scène du métro, par exemple, la scène du métro où tu as ces New-Yorkais qui se mettent devant Spider-Man en disant « c'est nous ».
Mais moi, je pense que cette scène, elle aurait pu exister sans le 11 septembre. En fait, comme tu le disais, Spider-Man, c'est le héros new-yorkais. Et donc, dans les moments de détresse où il est genou à terre, évidemment que les New-Yorkais autour de lui vont se dresser pour le soulever.
Rappelons la scène, pour ceux qui l'auraient peut-être bien en tête, c'est cette scène effectivement du métro où Spider-Man se bat face à Docteur Octopus sur le toit du métro.
Octopus, sur le toit, à l'intérieur, sur les côtés, sur la route, partout.
Octopus brise le métro. Le métro est lancé à une vitesse phénoménale. Il va tomber dans le Hudson River. Et Spider-Man l'arrête après moult efforts en accrochant des toiles. Il va au bout de ses limites. Il en arrive à s'évanouir. Et il est récupéré par les voyageurs du métro qui le portent tel un Christ au-dessus d'eux.
En fait, ça, c'est Sam Raimi qui réussit la scène qu'il avait loupée dans le premier, où les New-Yorkais viennent aussi au secours de Spider-Man en envoyant des ordures sur le bouffon vert depuis un pont. Et où, déjà à l'époque, quand je l'avais vu au cinéma, c'était un peu cringy. J'étais alors,
c'est pas
forcément hyper abouti, ce truc. Alors que dans le 2, elle est extrêmement bien amenée.
Et c'est les New-Yorkais qui voient en premier le véritable visage de Spider-Man, même Mary Jane.
Avant Mary Jane.
Ils disent, on dira rien.
Et vraiment, sans vouloir nier ta vision du truc, qui est tout à fait valide, moi, je pense que c'est...
il l'aurait fait de toute façon.
Ouais. Moi, j'ai pas ressenti ça dans Spider-Man à l'époque où je l'ai vu, et je l'ai pas ressenti vraiment en le revoyant. Évidemment, c'est un film qui se passe à New York, c'est là, et c'est indéniable. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une volonté de Sam Raimi, en tout cas. Moi, j'ai plus l'impression qu'il prépare sa suite à lui et que il sait que le troisième opus va devoir, même s'il se fera pas exactement dans ce qu'il avait prévu. Mais tout ça pour dire que je pense que cette atmosphère un peu étrange et inquiétante qui distille à la fin de son film est plus une manière d'installer intelligemment ce qu'il voudrait qu'il se passe par la suite.
Et voilà. C'est vrai que tu l'as dit, on a donc en 2004 Spider-Man 2, on a également Les Indestructibles, Pixar qui...
Là, il y a une ref au 11 septembre. Là.
C'est assez dingue, c'est vrai que Pixar, on a encore assez... ça doit être son cinquième ou sixième film, mais c'est l'un des premiers longs métrages encore de Pixar, 2004. Parce que, donc mine de rien, on est encore dans les premiers, et mine de rien, Pixar se dit, on est encore en train de façonner notre identité, on va faire un film de super-héros, et un film de super-héros qui n'est évidemment pas comme les autres. puisque c'est un film, oui, de famille. De,
c'est non seulement un film de super-héros pas comme les autres, mais c'est un Pixar pas comme les autres, ouais, du tout. Parce que si, en fait, c'est le, pour moi, le, Les Indestructibles, c'est, je me demande si je trouve pas que c'est le meilleur, enfin, le plus grand Pixar. En tout cas, c'est le premier pivot qui va faire basculer Pixar dans autre chose. C'est-à-dire que c'est le premier Pixar où les personnages centraux sont des êtres humains.
C'est vrai.
C'est le premier Pixar, c'est le premier Pixar d'auteur. C'est-à-dire que quand tu regardes les cinq premiers Pixar, il y a toujours quasiment deux réalisateurs, si ce n'est plus. Il y a toujours une team de scénaristes où ils sont minimum deux, parfois quatre ou cinq. Les Indestructibles, il y a un scénariste, Brad Bird, un réalisateur, Brad Bird, qui fait une idée de Brad Bird qu'il a eue en 1983, à l'époque où il bossait pour Disney et qui s'est fait virer.
Et Brad Bird, réalisateur extérieur au cœur de Pixar, parce qu'avant, effectivement,
en fait,
les films...
Il a été réembauché par Disney.
Voilà, il a été réembauché.
Il a été réembauché par Disney, et c'était vraiment un très, très gros coup de poker hyper risqué de la part de Disney, parce qu'en fait, Brad Bird, tout ce qu'il avait fait avant Les Indestructibles, même si c'était, par exemple, Le Géant de Fer, fantastique film, gros flop au box-office qui n'est pas du tout rentré dans ses frais, qui a atteint un statut de culte, mais qui est un film maudit, si tu veux.
Bien sûr.
Donc le premier vrai, la première vraie prise de risque de Pixar et leur premier film d'auteur qui va ensuite devenir leur marque de fabrique par la suite, c'est Les Indestructibles.
Ouais.
Et Les Indestructibles, c'est un film de Brad Bird, c'est-à-dire il y a pas d'intervenant extérieur, il y a pas de, c'est même une histoire qu'il avait développée à l'époque où il bossait chez Disney. Brad Bird, il fait partie de la même génération que Burton chez Disney, il a bossé dans les années 80 pour eux sur les mêmes films que Burton, Rox et Rookie, Taramel Chaudron Magique, une époque où chez Disney c'est un
et
peu
donc
compliqué.
Avec Lasseter, ils étaient déjà effectivement potes,
ils étaient potes avec Lasseter à l'époque, et ça se passe pas bien chez Disney pour Brad Bird, comme pas
comme
mal
toute une génération d'animateurs
ouais, voilà, qui se sont barrés. C'est son pote John Lasseter qui a poussé Disney et Pixar à l'embaucher pour faire. Mais je pense que ça a dû quand même être une négociation âpre, parce que c'était pas du tout une garantie de succès d'embaucher Brad Bird.
Et c'est déjà un film un peu méta, un peu conscient de son genre, parce que c'est mine de rien déjà un film sur le genre lui-même. Oui. Déjà sur un film sur qu'est-ce que c'est fait le super-héros quand il rentre chez lui. Donc t'as quand même déjà une sorte de conscience où le genre passe, j'arrive pas à dire en post-moderne, mais il passe déjà en mode ok, on est conscient de nous-mêmes, on est conscient de nos codes, on va jouer un petit peu avec.
Ouais.
Hellboy le fait, Del Toro le fait déjà un peu avec Hellboy, qui est déjà intrinsèquement un personnage anti-héros, on va dire déjà conscient de lui-même, dans ce que fait Mike Mignola. Mais Del Toro, on va dire, pousse le truc. Donc en 2004, mine de rien, t'as déjà un genre, d'un côté Spider-Man 2, d'un côté Hellboy, d'un côté Indestructible, qui propose plein de visions d'auteurs, on l'a vu, et plein de visions extrêmement intéressantes d'auteurs et sur le genre lui-même.
Ouais, et puis en fait, Brad Bird est le premier à avouer qu'il était très peu familier du genre super-héroïque. Il était pas vraiment lecteur de comic books. Donc en fait, quand il s'est tourné vers Les Indestructibles, c'était plus pour raconter sa vie à lui, en fait. C'est ce qui donne d'ailleurs ce côté méta au film, c'est-à-dire que Lasseter imagine sa famille de super-héros dysfonctionnels dès le début des années 90, si je me trompe pas, et en fait il imagine sa vie de famille à lui, en fait, ses embrouilles avec sa femme, la scène par exemple où Mr. and Mrs. Incredible s'engueule sur est-ce qu'il faut aller à l'école du fils pour
le quatrième prix de... Ouais.
C'est complètement une scène de sa vie, en fait, qu'il a recouché sur le papier. Et c'est comme ça qu'il a pitché le truc à Disney et à Pixar. C'est-à-dire, il a dit, voilà, je vais vous faire un film de super-héros, mais qui va raconter les tracas du quotidien des super-héros et comment, si on les empêche d'être des super-héros, ils vont devoir s'adapter à la vie en société, en communauté.
Mine de rien, mais les mêmes thématiques que Spider-Man 2.
Mais poussées à l'extrême. C'est-à-dire... Les Indestructibles, c'est presque le OSS 117 du film de super-héros en plus sérieux.
T'as un bon mood d'années 70 avec cette musique de Giacchino qui est un score phénoménal.
Ouais, c'est magnifique. Mais t'as aussi des scènes d'espionnage à la James Bond, t'as des scènes dans la jungle à la film d'espionnage. Donc c'est un film qui est effectivement un des premiers films super-héroïques méta. Il installe beaucoup de précédents dans... C'est le premier film, c'est intéressant de le noter, Pixar, à avoir une classification en salle. C'est-à-dire que d'habitude, tous les films Pixar sont destinés à tout public. Et aux États-Unis, tu sais, il y a le PG-13. Ouais. Et bah, ce Pixar-là, il a reçu la mention PG, donc Parental Guidance, ce qui signifiait que ok, c'était un film pour toute la famille, mais c'était quand même aux parents de prendre la décision d'emmener leurs enfants le voir ou pas. Pourquoi ? Parce que ça parlait d'humains, parce qu'il y avait des scènes avec des connotations sexuelles, il y avait du sang, c'est la première fois que tu vois du sang dans un Pixar. Il y a un mec qui à un moment, paf, ouvre une bouteille de champagne, c'est la première fois qu'on consomme de l'alcool dans un Pixar.
Et ça, c'est des choix finalement, c'est des gens qui se réunissent en réunion, qui disent « ok, on fait ça ».
Exactement.
Et des gens qui leur disent ok, mais si vous faites ça, c'est ça. Hein.
Et c'est John okay. Et c'est bon, décidément, c'est et c'est Brad Bird qui vraiment bataille pour chaque, enfin avance petit à petit sur chaque aspect du film pour faire accepter sa vision.
Brad Bird, rappelons-le, qui effectivement après fera, bon, il récupérera Ratatouille que laissé par Yann Pincava, ouais. qui effectivement avait pas pu gérer le projet. Il récupérera Ratatouille pour effectivement faire le film. Il fera ensuite John Carter of Mars,
ouais.
Également Tomorrowland, deux films qui ne marcheront pas beaucoup.
Non.
Et Mission Impossible, bien sûr, Ghost Protocol. Ouais. D'ailleurs, c'est assez bon drôle cru. Effectivement de voir comment quelqu'un qui fait l'Indestructible, qui également est un film conscient de son genre, fait Mission Impossible, Ghost Protocol, qui est un film où rien ne fonctionne.
Ouais.
Qui est un film d'espionnage où Ghost Protocol, tous les gadgets de Ethanon ne marchent pas.
Bah, tout
et donc, c'est comment, pareil, tu reviens à l'humain, tu reviens à l'essence, tu reviens au cœur, tu reviens à ton équipe, tu reviens à tout ça. Et exactement. Donc, c'est drôle qu'il fait finalement des films qui se raccrochent. Pour conclure ce thème où on a déjà quand même pas le discuté, est-ce que tu dirais rapidement que 2004, c'est l'année la plus importante du genre super-héroïque ?
C'est le, à la fois le début et la fin, quoi. C'est-à-dire que à mon sens. Bah, non, mais en fait, c'est une année qui a fait basculer le genre super-héroïque dans ce que ça allait devenir, et la forme finale, c'est ce qu'on a aujourd'hui, si tu veux. C'est une sorte d'hégémonie complète et totale de ce type de divertissement qui propose par à coup des surprises super, mais aussi beaucoup de films calqués sur un schéma qui a été, mine de rien, installé par Sam Raimi, par Guillermo del Toro, par Brad Bird. En fait, ils ont installé des éléments qui font encore aujourd'hui référence, mais qui vidaient du sens qu'on leur donnait en 2004, ont beaucoup moins d'impact.
Et c'est marrant de voir effectivement un film qui sort en 2021 de Spider-Man
avec,
en comparaison avec un film qui est sorti en 2004.
Effectivement, quand tu prépares une émission comme celle d'aujourd'hui, que tu revois Spider-Man 2 et que tu vois le Spider-Man No Way Home juste derrière, évidemment, les différences te sautent aux yeux et tu vois ce qui a été ingurgité par la nouvelle génération de réalisateurs qui font des films de super-héros aujourd'hui. Mais qui, c'est un peu comme dans la musique, c'est-à-dire que quand tu reprends des éléments qui t'ont inspiré, mais que tu les digères d'une manière un petit peu maladroite, bah, tu produis quelque chose qui est peut-être efficace, mais qui manque un petit peu d'âme. Et bah, là, c'est un petit peu la même chose qui se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est très très efficace. Ça fait se lever les gens dans la salle et applaudir et hurler à tout rompre. Et en même temps, ça ne raconte pas grand-chose. C'est du plaisir instantané, mais qu'est-ce qui reste à la fin ? Pas grand-chose.
En tout cas, voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de l'émission consacrée à 2004. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, on est toujours avec Joe Hume, et on est parti sans plus attendre vers notre second thème. Monster, The Blue Wrath, musique du générique d'ouverture d'un autre film de 2004. Ce film-là est Shaun of the Dead d'Edgar Wright, qui est également un film intéressant qui va être notamment au cœur de notre second thème, puisqu'au cœur de notre second thème, on va parler d'un autre genre que celui du genre super-héroïque. Voilà, Joe a donné un petit teasing, puisqu'on va parler du genre du zombie movie, qui en 2004 renaît également d'une certaine manière, ressuscite, je dirais, ou en tout cas apporte.
Se réveille d'entre les morts, n'est-ce pas ?
Se réveille d'entre les morts, on peut filer la métaphore encore
pendant
longtemps.
Pendant 2 heures.
Hein, voilà. Alors en 2004, on a donc Shaun of the Dead, on a également Dawn of the Dead, qui est un remake du zombie de Romero par un certain Zack Snyder, un petit réalisateur qui ne fera pas grand-chose après.
Non.
En 2004, on a également Resident Evil 2, qui est la suite de l'adaptation du jeu vidéo. On a également Les Revenants, un film de Robin Campillo, film français qui
deviendra une série
sur Canal+, qui est aussi la même année, bah mine de rien, une adaptation, une revisite, une lecture française du genre de film de zombies. Donc 2004, et grosse année du film de zombies. Alors rapidement, hein, pour mettre du contexte, j'adore mettre du contexte dans ces émissions-là. Le genre du film de zombies, il est vraiment né, le genre du film de zombies moderne avec La Nuit des Morts Vivants en 68 de George Romero. Il y a eu quelques films, des proto-films de zombies auparavant, des films de Tourneur, White Zombie, A Walk with a Zombie, etc., etc. Mais l'ère moderne commence vraiment en 68 avec La Nuit des Morts Vivants. Et dans les années 70-80, ce genre est très populaire dans une catégorie quand même de films de série B. Quand même, c'est un film qui est populaire, mais y a pas de, ça ne fait jamais des cartons au box-office.
C'est le western spaghetti du film d'horreur. Enfin, il y a énormément de films italiens fauchés, mais très cool.
Mais voilà, du coup, pendant les années 70-80, il y a quand même beaucoup de films comme ça qui embrassent cette question, cette histoire du zombie. C'est un genre qui raconte beaucoup de choses sur l'être humain, sur la société. C'est un genre, on va dire, subversif par nature.
Ouais.
Et bref, ce genre-là, pendant les années 90, il fait un peu la tronche. Il est un peu moribond, en tout cas au cinéma. Il est récupéré un peu par le jeu vidéo. On a Resident Evil et House of the Dead qui racontent des choses un petit peu plus intéressantes.
Ouais.
Avant, finalement, de renaître, et on va en parler, dans les années 2000, grâce à plusieurs films, dont Shaun of the Dead. C'est quoi ta petite histoire personnelle, toi, avec ce genre de film de zombies?
La génération vidéoclub, VHS, film d'horreur loué au vu et au su des parents qui savaient pas du tout ce qu'on louait, et donc on matait Robocop, on matait le zombie de Romero, alors qu'on était beaucoup trop jeunes pour mater ces trucs là donc moi j'ai été extrêmement marqué par mon initiation au genre de zombie. Ça a été le deuxième de Romero, donc Zombie.
Ouais.
Pour moi, ce que Romero a installé et qui faisait défaut jusqu'à moi, je vais placer ça à 2002 avec 28 jours plus tard de Danny Boyle.
On va effectivement
en
parler.
Au-delà du film de zombies, c'est le film de horde. C'est-à-dire que les films avec des revenants, OK, il y en a eu dans les années 70 et 80, mais quand on parle de Réanimateur, quand on parle de Pet Sematary, ce sont finalement des revenants assez isolés.
Oui.
Dans les années 2000, on revient au film de horde de zombies. Mmh. Et où vraiment l'humanité, c'est presque des films post-apocalyptiques où l'humanité est réduite à une sorte de horde gigantesque
avec quelques survivants. Et d'ailleurs, c'est désinfecté avec 20 jours plus tard. Donc le genre évolue aussi, d'ailleurs.
Ça évolue, mais c'est clairement construit sur les bases plus posé par Romero que par tout ce qui a suivi dans les années 70 et 80. On est vraiment dans du film de revenants en masse qui finalement sont moins les thématiques centrales. En fait, ça parle de survie et ça parle de comment l'être humain se retrouve confronté à un tel merdier, comment un petit groupe d'humains va réagir et tenter de survivre face à une invasion zombie. Donc on est dans un genre horrifique beaucoup moins intimiste qui brasse des thématiques beaucoup plus larges et beaucoup plus universel. 28 jours plus tard va poser les premiers jalons d'un genre qui ensuite va connaître un très très gros essor, et 2004 c'est un peu le retour en très grosse force de ce genre là
Oui, effectivement, parce que suite au succès, donc 20 jours plus tard, Danny Boyle, c'est le film, voilà, exactement, les zombies ne sont plus des êtres décérébrés qui avancent lentement, certes en horde, mais qui avancent lentement et qui sont comme ça un petit peu grotesques par aspect. Là, ça devient, avec 20 jours plus tard, donc 2002, deux ans auparavant, désinfecté, plein de rage, une animalité qui fait flipper. Et du coup, il y a cette dimension, tu l'as dit, post-apocalyptique, pandémique,
survival, je dirais. Quoi, tu vois, pandémique, ah bah, comme des films de 28 jours plus tard, c'est un film sur la pandémie.
Un film de pandémie qui nous parle forcément particulièrement. Et en 2004, bah, tu as dit que l'un de tes films qui t'avait marqué, c'était le Zombie de Romero 78, et qui est du coup remaké en 2004
par Zack Snyder.
Enfin, en 2004, c'est son premier long métrage, c'est son premier film. T'as Shaun of the Dead, qui est une comédie romantique
avec des zombies.
Donc là encore, effectivement, on prend un genre, on le métaïse, on va dire qu'on réfléchit dessus.
Premier film également d'Edgar Wright.
Et donc, on a tous ces films-là qui viennent comme ça raconter quelque chose sur le genre zombie. Quoi elle ressemble, cette nouvelle vague de films de zombies, justement, de 2004? Qu'est-ce qu'elle vient apporter d'intéressant au genre
Si on prend le truc film par film, ce que ce genre permet, c'est à des réalisatrices et des réalisateurs d'exprimer leur personnalité au travers du film de genre. Et c'est ce que le film de genre, que ce soit le film d'horreur, le western, le film de science-fiction, a permis de tout temps. C'est-à-dire les réalisateurs et réalisatrices qui embrassent un film de genre de manière très respectueuse du genre, le font généralement pour parler d'autre chose, en fait. Et le film de zombies permet ça plus que tout autre film d'horreur, parce que les zombies en soi ne sont pas intéressants du tout.
Un prétexte
pour parler des personnages. Et donc, on a des réalisateurs qui se servent de ce genre en 2000 pour parler du monde qui les entoure. Mmh. Donc forcément, on est dans un monde qui va beaucoup plus vite que dans les années 70, donc les zombies courent. On est dans un monde où les problématiques environnementales sont beaucoup plus préoccupantes, donc on a 28 jours plus tard.
Ouais.
On est dans un monde où la société de consommation est encore plus envahissante que dans les années 70 et 80, et pourtant, on ne s'était pas dit que ça serait possible à l'époque, mais si. et donc, on a Army of the Dead de Snyder. En fait, c'est un film qui est très bête mais intelligemment, je trouve. Mm-hmm. Ce remake du Romero
qui était déjà une critique, effectivement,
qui était déjà une critique et qui était beaucoup plus fine que le film de Snyder, finalement. Mais en fait, le film de Snyder va tellement fonce tellement tête baissée là-dedans, c'est un film à la fois complètement con et en même temps qui parle vraiment très très bien de l'époque à laquelle il est sorti. Et puis on a Edgar Wright qui lui dit, bah non, mais moi en fait j'ai grandi avec les comédies britanniques des années 80 et 90. L'humour anglais, c'est quelque chose qu'il a dans son ADN et dans ses veines, et en même temps il est fan absolu de films de genre. Il se dit, bah voilà, moi je vais prendre les films de zombies, et ça donne Shaun of the Dead, qui est un film vraiment à l'époque unique en son genre. Mmh. Et qui va faire des émules par la suite, c'est-à-dire que parfois pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire des réalisatrices et réalisateurs qui, ça va donner Zombieland, quoi, tu vois. Où on est beaucoup plus cynique, où on est beaucoup plus dans l'ironie, alors que Edgar Wright avec Shaun of the Dead, c'est vraiment un film d'horreur, un film de zombies pur et dur, mais c'est pas fait avec une idée roublarde derrière la tête de dire on va faire un film d'horreur rigolo, ça va faire venir les gens en salle. Non, il y a une volonté d'auteur derrière.
Et t'as un amour du genre.
Et un vrai amour
du genre, bien sûr.
Un aussi. Respect. D'ailleurs, il n'y a pas de zombies qui courent dans, Shaun of the Dead, donc il est presque old school.
Est-ce que tu dirais pas que, comme dans le premier temps avec le genre du super-héros, là, mine de rien, on a un remake, on a un pastiche, on a du.
Ouais.
Mais du coup, est-ce qu'on perdrait pas un peu de l'aspect subversif du genre, de cette essence si corrosive?
Moi, inconscient, on l'a quand même encore dans 28 jours plus tard. On l'a quand même.
Oui, mais là, on parle de 2002, 28 jours plus tard. Là, je parle de 2002. Après, est-ce qu'en 2004, c'est pas le début, comme tu disais, Spider-Man, le début de la fin?
Si, parce que si, parce d'une que certaine manière, oui,
tard,
parce
zombie,
que mais même un an plus tard, t'as
Diary of the Dead.
Non, c'est pas Diary encore. C'est un autre truc, Of the Dead de Romero. Et déjà et un an plus tard, donc dans ce film de Romero, t'as une lecture méta du genre, ouais. Et t'as Romero qui regarde dans le rétro et qui dresse un peu un bilan du genre qu'il a participé à inventer, enfin qu'il a même inventé, ouais. Monté de toutes pièces. Donc oui. On perd quelque chose, mais en même temps on a Shaun of the Dead qui est un très grand film, quoi.
Ouais.
qui est vraiment un film jouissif qui encore aujourd'hui me fait éclater de rire sans aucun problème, où rien n'est daté.
Et là, du coup, on l'a vu, Edgar Wright et Zack Snyder font tous les deux leur premier film.
Ouais.
Donc c'est tous les deux le lancement de carrière qui sont encore en cours aujourd'hui, hein. Edgar, oui. Wright a sorti Last Night in Soho cette année. Ouais. Zack Snyder a mine de rien refait un film de zombies,
oui.
Cette année-là, Zack Snyder. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces deux films, Shaun of the Dead et Dawn of the Dead, sur ces réalisateurs-là?
Pour moi, ça peut se résumer à un truc assez simple. Donc, on voit les débuts de deux réalisateurs. L'un qui va évoluer et réaliser, pour le meilleur et pour le pire, l'un ou parmi les films de super-héros les plus gigantesques financièrement parlant du 21e siècle. Et de l'autre côté, on a Wright qui, lui, va se faire tèche par Marvel quand il va proposer sa vision de Ant-Man, son film de super-héros qu'il aurait voulu faire avec les studios Marvel. C'est bizarre, ça fait bizarre de comparer Snyder et Edgar Wright, et pourtant, en fait, ils sont tous les deux un peu tributaires de leur époque, si tu veux.
Ouais.
Et
moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de points communs.
Ils ont finalement,
regarde,
pas mal de points communs.
C'est deux réalisateurs qui prennent des choses qu'ils aiment et qui les copient. Ouais. Snyder, mine de rien, passera sa carrière à faire des remakes et à recopier des cases de BD à l'identique sur ses films.
Non,
après,
ils ont
300.
Ils ont beaucoup plus de points communs.
Après, il fait Watchmen.
Ce
après, il dit, ah bah ça, j'aime pas, je vais prendre des. En fait, il prend des tropes et des motifs et il les colle,
ouais.
Comme un mec dans un album Panini. Il recolle des trucs et il dessine autour et il en fait ses propres trucs.
Complètement.
Et Edgar Wright fait un peu la même chose, peut-être de manière peut-être un peu plus fine et encore, c'est à discuter. Mais tu vois,
ouais.
Mais mine de rien, c'est des gens qui ont la même démarche de prendre des trucs et de colorier autour pour en faire leur
En fait, Edgar Wright, je trouve que Edgar Wright a juste l'avantage d'être un meilleur conteur d'histoire, quoi. C'est un mec qui qui parvient à créer des personnages auxquels on s'identifie plus facilement que dans les films de Snyder, où en fait dans les films de Snyder t'as plus l'impression que les personnages c'est des sortes de concepts.
Oui, bah Snyder c'est un chef-op de base, donc effectivement, ouais, donc ça se sent peut-être dans sa storytelling.
C'est voilà, il y a quelque chose de très, on peut aimer, hein. C'est, en plus, oui, je trouve pas que tout le cinéma de Snyder soit acheté, loin de là.
Bah pour venant d'un mec qui a quand même, je pense, un peu comme Michael Bay à son époque, quand même donné une sorte d'esthétique générale du film hollywoodien pendant quelques années. Hein, la patte de Snyder, l'impact de Snyder sur la production hollywoodienne n'est pas négligeable et indéniable. Ouais. Donc
bien sûr, mais à côté de ça, les films de Wright, je trouve. Propose des personnages extrêmement attachants, parvient à créer l'un des binômes pour moi les plus emblématiques des années 2000, à savoir Simon Pegg et Nick Frost, et Shaun of the Dead pose vraiment admirablement toutes les bases de cet univers-là. C'est-à-dire que là où, par exemple, je trouve Snyder et Edgar Wright divergent fortement, c'est que Snyder se laisse effectivement porter par sa vision esthétique, mais il y a finalement assez peu de cohérence d'un film à l'autre, alors que du côté de Wright, il y a quelque chose de très limpide entre Shaun of the Dead et là Last Night in Soho. Il y a vraiment une trajectoire de réalisateur-auteur qui
n'est pas que visuelle, qui n'est pas que esthétique, qui est plus profonde que ça, évidemment.
Voilà, je pense.
Pour conclure ce thème, on est en 2021. Le souvenir, toi, du dernier film de zombie où tu t'es dit, hé, là, ça raconte quelque chose d'intéressant, ou en tout cas.
Tiens, j'ai pas. C'était dans le conducteur, cette question?
Non, j'aime surprendre mes invités.
Ah, si! Ah, si, évidemment! Le dernier train pour Busan!
Ah oui!
Non, mais attends, comment j'ai pu oublier ce film gigantesque? C'est la scène du train pendant tout le film.
Donc, film sud-coréen sorti en 2016, je crois, ou 2017.
Ouais. Vraiment, excellent film.
Last Train
for Busan, un film qui parvient, je trouve, à trouver le juste milieu entre problématiques à grande échelle et histoire intimiste de survie d'un petit groupe de personnages, puisque ça se passe c'est quasiment une unité de lieu du début à la fin, à savoir un train. Je crois que c'est le dernier film de zombies que j'ai vu qui m'a un peu foutu par terre, vraiment, où je me suis même étonné par la suite qu'il n'y ait pas un sursaut effectivement et un regain d'une résurgence du genre film de zombies, parce que pour moi ça avait eu le même, sur moi en tout cas, ça avait eu le même impact que la première fois que j'ai vu 28 jours plus tard au cinéma, où je me suis pris une claque, le dernier train pour Busan. Je pensais pas qu'on pouvait encore me faire vraiment vibrer comme ça avec un film de zombies, parce que j'avais l'impression, comme tu le dis, que le genre était un peu mort et enterré, et que une fois qu'on avait dit tout ce qu'on avait à dire avec, c'était difficile de renouveler le truc, et non, moi je trouve que ce film il parvient assez admirable.
En tout cas, voilà qui conclut parfaitement ce second thème de cette année 2004. On est toujours avec Joe Yu, vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, et on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission.
Supposedly Cousteau and his cronies invented the idea of putting walkie-talkies into the helmet, but we made ours with a special rabbit ear on the top so we could pipe in some music.
Cette drôle de voix et cette drôle de musique, elle vient de la vie aquatique, et cette voix, elle vient de la bouche de Bill Murray, qui est un acteur de notre troisième et dernier thème de 2004, puisque Bill Murray en 2004, c'est une année assez importante, assez pivot, assez cruciale pour cet acteur que tout le monde connaît, puisque bon, certes, il va jouer dans Garfield, il va donner sa voix au chat Garfield, certes, mais il va évidemment incarner Steve Zissou dans La vie aquatique de Wes Anderson. Il va remporter le Golden Globe pour Lost in Translation de Sofia Coppola qui sera sorti l'année précédente, et un film qui va également lui donner sa première et seule nomination à l'Oscar, donc ce qui n'est pas rien du tout. Et en même temps, en 2004, il sera également en tournage de Broken Flowers de Jim Jarmusch, qui va également participer d'une certaine dynamique, on va dire, dans sa carrière, dynamique dont on va discuter dans ce troisième thème. Donc c'est une période, une année particulière pour Bill Murray, qui se retrouve un peu à la croisée des chemins et qui va finir de transformer du coup Bill Murray en acteur culte d'une nouvelle génération de réalisateurs et de spectateurs d'ailleurs, qui est une génération de réalisateurs indépendants, arty, ou en tout cas très éloignés, on va dire, de ses débuts comiques. Alors pour résumer rapidement la carrière de Bill Murray, c'est près de 100 films sur 50 ans de carrière au cinéma. cinéma. C'est des films comme Caddyshack en 80, Tootsie de Sidney Pollack en 82, bien sûr SOS Phantom 1 et 2, Un jour sans fin, Ed Wood, Space Jam où il fait un caméo, et bien sûr plus récemment depuis 20-25 ans les nombreux Wes Anderson, les nombreux Jim Jarmusch et les nombreux films de Sofia Coppola. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Avant 2004, c'était quoi Bill Murray?
SOS Phantom.
Il symbolisait quoi pour toi? Ouais. SOS Phantom.
En tout cas pour les Européens, tu vois, Caddyshack.
Oui, ça ne parle à personne.
Caddyshack, ça parle à personne. Scrooged, ça parle à personne. C'est SOS Phantom, en fait. C'est Venkman. C'est celui des SOS Phantom qu'on avait envie d'être. Parce que c'était celui qui avait de la. C'était celui qui embrassait la nana. C'était celui qui avait de la gouaille. C'était celui qui balançait.
Du coup, justement, tu dis gouaille, etc. Tu le définirais comment, ce personnage de Bill Murray? Parce que c'est un personnage, Bill Murray.
Comme un insolent. Mais un insolent, mais avec qui t'as envie d'être pote, tu vois. C'était le. Quand t'as grandi dans les années 80, que t'étais un gamin un peu outsider, un peu outcast et tout, Bill Murray, c'était le mec dont t'avais envie d'avoir la répartie, un peu comme Bagou dans les Goonies, quoi, tu vois. C'est celui que t'aurais bien aimé avoir avec toi quand on t'emmerdait, pas pour pouvoir te battre, mais pour pouvoir balancer une punchline qui faisait que. Finalement, tout le monde rigolait et que tout se passait bien, tu vois. Donc, Bill Murray, dans les années 80, c'est ce personnage-là qui l'installe, peut-être malgré lui, j'en sais rien. Parce que SOS Phantom a finalement un peu vampirisé toute sa carrière dans les années 80 et 90. Et en fait, je pense que le Bill Murray des années 2000, c'est la final form.
De ce qui était déjà en gestation dans les années 70,
ouais,
70,
je pense,
80,
ouais, et qui va le déclencheur, ça va être la rencontre avec Wes Anderson en 98. Sur Rushmore,
ouais.
Qui va commencer d'enclencher un truc, qui a trouvé son épanouissement total
cet acteur totem qui va.
C'est un acteur totem, c'est vraiment ça. C'est ce que devient Bill Murray dans les années 2000, au risque même de devenir une sorte de truc un peu un acteur un peu pion comme ça, où tu prends Bill Murray pour faire Bill Murray.
Et tu sais drôle ce que tu dis là. Tu prends Bill Murray pour faire Bill Murray.
Ouais.
Et ce qui est marrant, c'est que quand je réfléchis effectivement quand je préparais l'émission, je me suis dit Bill Murray, c'est quoi, c'est qui, et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui viennent en tête. C'est cet acteur, ce côté râleur sympathique, t'as ce côté nonchalant un peu désinvolte.
T'as l'impression que Bill Murray, c'est un acteur qui s'amuse de ce qu'il voit autour de lui. C'est-à-dire que c'est même un acteur qui se moque presque un petit peu de son métier, qui d'ailleurs est le premier à dire qu'il n'a pas d'agent, qu'il faut le contacter sur son répondeur, que parfois il a loupé des films parce qu'il n'avait pas écouté son répondeur et du coup il ne savait pas qu'on lui proposait tel ou tel truc.
Ouais.
Tu ne sais pas à quel point c'est du mytho ou pas, mais tu sais que même jusqu'à dans sa manière nonchalante d'incarner ses personnages, il y a un mec qui prend vraiment beaucoup de recul avec tout ce que peut représenter le cinéma hollywoodien et tout le star system qu'il y a autour. Lui, il a jamais cédé à ça, alors qu'il aurait pu vraiment tomber dans une sorte
de
facilité.
Dans les années 80, c'était une grosse star comique,
voilà,
effectivement.
Tu vois, et vraiment avec SOS Phantom et avec Un jour sans fin, il aurait pu vraiment tomber dans des travers. Et alors, est-ce que c'est parce qu'il a pas su le faire, ou est-ce que c'est parce qu'il a pas réussi à transformer l'essai, ou je sais pas. Mais en tout cas, à la fin des années 90 et dans les années 2000, t'as vraiment l'impression que c'est une sorte de témoin un peu de ce qui se passe autour de lui. C'est ce qui fait que ces personnages sont aussi si attachants, je pense. C'est parce que on a l'impression que rien ne le surprend, si tu veux, que tout ce qui se passe autour de lui, c'est comme si c'était une sorte de rock qui voit toutes les choses se faire autour de lui, qui saisit au vol une occasion ou pas de sortir une punchline, d'embrasser quelqu'un, de vivre une aventure incroyable, mais où tout est traité de la même manière. C'est-à-dire que Bill Murray au cinéma, qui respire le parfum d'une fleur, ou qui part sous la mer pour chasser un requin légendaire, il le fait exactement avec la même intention de jeu.
Est-ce que c'est pas l'un des acteurs où tu te dis, en fait, Bill Murray, c'est le même que dans la vie?
Oui.
T'en as des acteurs comme ça,
oui.
Où tu te dis...
Oui, je pense que oui, mais on s'en rendait moins compte en 2004,
ouais,
qu'aujourd'hui.
Pas 40 ans de décalage.
On s'en rendait pas compte autant à cette époque-là. À cette époque-là, on disait, waouh, en fait, Bill Murray, c'est le mec des SOS Fantômes et d'Un jour sans fin, mais en fait, non, il est beaucoup plus aventureux que ça dans ses choix de réalisatrice et réalisateur. Le Rushmore, c'est le deuxième film, je crois, de Wes Anderson. Son premier film, c'est vraiment un réalisateur indé as fuck. Donc Bill Murray, je pense que s'il va chez Wes Anderson, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui lui dit, en fait, j'ai envie de faire ça, quoi.
Et c'est marrant parce que tu disais, c'est drôle, j'ai l'impression que Bill Murray, il réagit à son environnement et il prend un peu ce qui passe et il fait son propre truc. C'est vrai que pour rappeler, Bill Murray vient de l'impro. C'est un comique d'improvisation. C'est un mec qui a commencé, on va dire, sur Saturday Night Live, etc., etc. Donc c'est son ADN véritablement d'arriver comme ça et de faire un peu. Et tu le vois dans tous ses films, il y a toujours des scènes un peu cultes d'improvisation où il devait pas faire ça, il a fait ça. Et puis il arrive, il fait ça, il fume sa clope où il danse, où il fait n'importe quoi. Ou des lignes cultes maintenant aujourd'hui qui sont cultes et qui étaient improvisées. Et t'as des bloopers où tu vois effectivement.
On voit en
ça.
Fait, c'est un mec qui regarde ce qui se passe autour de lui. C'est comme un vrai bon stand-upper. Hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui se saisit de choses dont il est témoin et qui en fait son art. Et en fait, lui, Bill Murray, tu le vois faire dans les films. Quoi. Donc c'est ce qui fait que c'est fascinant. Et en même temps, au bout de quelques années d'habitude, alors bon, maintenant on voit un peu la mécanique et on voit comment il fait. On ne sait pas le faire, mais on voit comment lui fait son truc. C'est là que ça commence à devenir compliqué, c'est quand tu es dans l'autocitation.
Du coup, c'est intéressant, on l'a dit, on voit qu'effectivement, avant qu'il rencontre Wes Anderson, avant les années 2000 véritablement, et Bill Murray, c'était ce comique, on l'a vu dans SS Fantôme, on l'a vu dans Un jour sans fin, ce mec un petit peu râleur, qui a toujours la bonne vanne, qui va toujours faire un truc poufou, un peu cette dimension chaotique aussi, où il arrive faire... Voilà, dans ces années 2000, il va être récupéré, on va le voir chez Wes Anderson, on va le voir chez Sofia Coppola, on va le voir dans cette... il va devenir une sorte
Jarmouche
de dégérie.
C'est pas les films les plus grands de Jarmouche, mais c'est important dans le...
Comment il est devenu cette égérie de ce nouveau cinéma indé américain?
C'est Wes Anderson.
Pour toi, c'est ça qui l'a fait pivoter. Sofia Coppola qui lui offre un rôle à Oscar quand même.
Mais Lost in Translation, il n'y a pas de Lost in Translation si Sofia Coppola elle a pas vu les Tenenbaum 2 ans avant quoi. La famille Tenenbaum c'est la chrysalide de ce qui va se passer par la suite et donc de Lost in Translation. Mais je pense que Sofia Coppola elle a vu les Tenenbaum, elle a vu Bill Murray, elle s'est dit ah mais en fait en plus Bill Murray il ressemble à Coppola dans les Tenenbaum avec sa barbe et son col roulé et tout. Enfin je pense qu'elle a vu son daron dans le film, elle s'est dit ah il faut que
moi aussi je fumais des clopes dans ma salle de bain.
Il y avait quelque chose de ça. Et donc moi je pense vraiment que si c'est Sofia Coppola qui l'a glamourisé, qui l'a rendu Festival de Cannisable, Bill Murray, c'est vraiment Wes Anderson qui a posé les jalons de ça. Et c'est Bill Murray qui a eu l'intelligence d'aller chez Wes Anderson et de se dire ouais, avec ce mec là je vais pouvoir faire avancer ma carrière qui stagne un petit peu.
Est-ce que avec Wes Anderson et Coppola, est-ce qu'on a un nouveau Bill Murray ou est-ce que c'est le même?
Bah non, c'est le même, mais c'est juste que...
Il n'y a pas de différence entre le Bill Murray de 84, SOS Fantôme et Le Jour Sans Fin et le Bill Murray de...
Si, il y a peut-être...
De Steve Zissou. Moi, j'y vois une sorte de... Il y a quand même une sorte de mélancolie qui se rajoute en plus.
Oui.
J'ai l'impression qu'il est déjà un peu moins là.
Ouais, mais en fait, quand tu remates SOS Fantôme... Il a déjà ce côté...
Ah, mais il est showman.
En fait, il est showman, mais il regarde les trois autour de lui gesticuler, faire des trucs. Et t'as quand même plein de scènes où il les regarde juste faire. Et une fois que tout le monde a pris une décision, il fait « On fait ça ?» Bon, d'accord. Et il avait déjà ce truc de... Même dans Un jour sans fin, il est prisonnier d'un jour qui se termine pas. Et au bout d'un moment, il est juste... Enfin, il lâche la rampe, quoi, tu vois. Il lâche la rampe, il décide que je vais go with the flow. Et donc, il a déjà, je trouve, cet aspect...
mélancolique, cette dimension...
Mélancolique, mais qui était peut-être éclipsé par la jeunesse. Ouais. Ce qu'il a en 2004, Bill Murray, c'est qu'il a plus de 50 piges et que donc il y a tout le vécu qui vient s'ajouter au personnage qu'il a développé dans les années 80. Et je pense que le pinacle de ça, c'est Steve Zissou, quoi, tu vois, où effectivement, on est vraiment dans le hardcore Murray, où en fait, il est entouré de toute une team qui s'active autour de lui, qui fait des trucs tous azimuts dans tous les sens. Et lui, c'est le pivot central du truc. Et finalement, il est... Ok, ouais, c'est lui le capitaine, c'est lui Steve Zissou, mais en fait, c'est presque comme une sorte de chef d'orchestre qui bouge pas, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme s'il faisait tout bouger autour de lui juste en étant là. Et c'est comme ça que je trouve que Bill Murray est le mieux, vraiment.
Là, on a vu pourquoi Bill Murray, effectivement, est devenu une égérie de son point de vue à lui.
Ouais.
Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était du point de vue de Wes Anderson et Coppola. C'est-à-dire que ces réalisateurs-là ont en face d'eux un acteur, un comédien qui incarne quelque chose, qui représente quelque chose, et pour moi qui représente une sorte de un côté désabusé. et ils décident d'en faire leur héros. Pourquoi ils choisissent un acteur désabusé au début des années 2000?
Quand tu vois Virgin Suicide, tu te dis, bah, c'est logique que dans le film d'après, il y ait Bill Murray, en fait, parce qu'il y a, ce désenchantement total.
Donc le héros désabusé et le héros des années 2000 par excellence, peut-être.
En tout cas, du cinéma indépendant, oui. Et c'est ce qui peut agacer, d'ailleurs, certaines et certains spectatrices et spectateurs. C'est qu'il y a ce côté... Un peu trop désabusé, et un peu genre, bon, bah finalement, si rien n'a d'importance, pourquoi raconter des histoires? C'est ce que Bill Murray interroge avec son personnage même dans les Tenenbaum, dans Steve Zissou. Il y a toute une légende qui se monte autour de lui, et lui, il est là, alors bon, oui, ok, moi je veux juste voir le requin léopard, quoi, c'est tout, arrêtez de m'emmerder. Et
c'est marrant parce qu'on a qu'à passer quand même deux thèmes à discuter de super-héros, du film de zombies. De genre, de tropes, de motifs, de thèmes, des choses comme ça qui reviennent. Et là, on se retrouve avec un acteur, Bill Murray, qui, un peu comme les genres de super-héros et des zombies, est récupéré par des réalisateurs qui le digèrent, le rendent conscient de lui-même et en font un motif à la part entière qu'il trimballe de film en film et qui fait pas de carrière.
Vider petit à petit de sa substance, puisque...
D'où ma question, est-ce que du coup, avec le temps, qu'est-ce qui reste de Bill Murray aujourd'hui, tu vois ?
Zombieland, quoi, tu vois. Zombieland, c'est Bill Murray qui incarne Bill Murray, qui fait semblant d'être un zombie et qui est là genre, comme une sorte de... Enfin, dans Zombieland, Bill Murray, pour moi, c'est le pire truc. C'est l'autodestruction de Bill Murray, quoi. C'est le mec qui assume d'être un gimmick. C'est devenu un gimmick, quoi. Et dans Zombieland, il incarne ce gimmick. C'est quand j'ai vu Zombieland au ciné, ça m'avait fait un peu de la peine, dans le sens où... Alors,
bon, là, il a perdu cette dimension chaotique qui faisait peut-être tout son sel dans les années 80-90.
Aujourd'hui, on sait ce que c'est, Bill Murray, et j'ai pas l'impression que lui cherche spécialement à se transcender. Et à proposer autre chose que ce qu'on lui propose de faire depuis maintenant 2004. Donc c'était frais, c'était vivant, c'était nouveau. Et ça avait énormément de charme durant les 4-5 ans qui ont suivi. Et puis, comme beaucoup de trucs, quand tu te renouvelles pas et quand tu cherches pas à proposer quelque chose de nouveau, ça devient imprévisible. Alors parfois ça marche bien, c'est cool. Enfin, tu vois, il est toujours cool, Bill Murray dans les Wes Anderson. Hein. Il y a pas de souci.
Mais c'est triste aussi. Un peu.
Mais c'est aussi un peu, en tout cas, un peu attendu, quoi. Tu vois.
Et c'est drôle parce que plus on discute, plus on a l'impression que cette renaissance avec le film de Wes Anderson qui a vraiment relancé sa carrière, c'est en même temps le début d'une mort, d'une certaine mort.
Désolé pour les gens qui écoutent, c'est hyper triste ce qu'on dit, mais en même temps...
C'est aussi le début de la fin, comme Spider-Man 2 était le début de la fin.
Ouais, mais je pense qu'il est bien, lui.
Ah oui, je pense qu'il est très bien.
En fait, il cherche pas à se...
Bien sûr que non.
C'est pas qu'il, à mon avis, c'est pas qu'il trouve pas le moyen de faire un contre-emploi de fou ou de...
Il s'en moque.
Je pense qu'il s'en moque. Ouais. Parce qu'à mon avis, les films, on lui propose. Je pense que depuis 2004, on lui a proposé des trucs où son agent, qui je suis sûr existe, lui a dit « Attends, mais Bill, là, t'as moyen de retourner le cerveau des gens en faisant tel personnage, personne t'attend là-dedans et tout. » Et lui, je pense que ça le fait chier. Et donc, c'est ce qui fait que, après cette grosse surprise du début des années 2000 que fut la renaissance de Bill Murray, effectivement... Ouais. On a basculé sur quelque chose de pas du tout surprenant, mais de confort.
Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il fait Tenenbaum, il fait La Vie Aquatique, il fait Lost in Translation, qui sont Broken Flowers, qui sont plein de films extrêmement passionnants dans sa carrière.
Ouais.
Et après, effectivement, il...
Après, il refait ça.
Il refait ça, et encore, et il encore, et peut-être qu'effectivement, tu perds quelque chose. Là, on a comparé vraiment une sorte de... un point de rupture, début d'année 2000, avant et après. T'es plus Bill Murray post-2000 ou avant 2000?
En fait, c'est hyper difficile de choisir, parce que je pense que j'étais une personne... Enfin, un spectateur, en tout cas, très très différent quand je l'ai découvert dans les années 80.
Bien sûr.
Et quand j'ai usé la VHS de Un jour sans fin jusqu'à... Jusqu'à ce que ce soit plus qu'un vieux tas de merde dans les années 90. Peut-être que je me reconnais plus aujourd'hui dans le Bill Murray des années 2000, en tout cas.
Okay.
Tu vois, le mec à qui on l'a fait pas trop, qui n'est pas dupe de ce qui l'entoure et qui voit les choses se faire autour de lui et qui se dit « Bon, je vais pas le changer, le monde, donc je vais plutôt le regarder et m'en amuser que d'essayer de me dresser face à ce qui se passe. Mais en même temps, je garde vraiment une très très grosse tendresse pour le Bill Murray des années 80 et 90. La partition d'acteur que je préfère de lui, c'est peut-être quand même celle d'Un jour sans fin, tu vois, où tu sens que là, effectivement, le chaos est présent, quoi. Et chaque jour, il se réveille, et chaque jour, il se dit, bon, allez, on va... Enfin, je sais pas, il y a... il y a quelque chose dans Un jour sans fin qui me touche, qui me parle, même si je pense pouvoir m'identifier plus au Bill Murray des années 2000. C'est un peu ambivalent ce que je dis.
Mais c'est bien. Nous sommes plein de paradoxes. Nous sommes des êtres humains.
Voilà.
On a le droit.
Exactement.
En tout cas, Bill, si tu nous écoutes,
je n'ai pas qu'une vision de Bill Murray.
On t'aime, hein, parce qu'effectivement, on dit plein de choses, mais
bah oui, on l'aime beaucoup.
Bill Murray, on l'aime beaucoup. Et voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème de notre émission. On arrive bientôt à la fin. Rassurez-vous, on a bientôt effectivement terminé, mais comme à chaque fois, on va pas se quitter sans quelques recommandations autour de cette année 2004. Eh bien, on va y aller sans plus attendre. Alors voilà, effectivement, 2004, on a parlé de beaucoup de choses, du genre de super-héros, de Spider-Man, du genre de zombie, de Shaun of the Dead, de Bill Murray juste à l'instant. Et on est dans cet espace un petit peu à la fin de l'émission, on va pouvoir recommander des choses autour de cette année 2004. Toi, Joe, tu avais quelque chose à recommander en particulier
Des comics.
En 2004, alors voilà, effectivement, pas forcément effectivement du cinéma, mais des comics, tu me disais, tu avais un comics en particulier dont tu voulais parler.
Alors, ben, finalement deux, parce que les deux sont adaptés à ce dont on a parlé dans l'émission, mais d'une part, il y a un comic book indé canadien, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Scott Pilgrim, qui a commencé en 2004 dont j'achetais religieusement chaque tome en noir et blanc, avec un format plus manga finalement que comic book, et qui sera par la suite adapté par Edgar Wright au cinéma.
Donc mine de rien, la boucle est bouclée.
Voilà, et très très bon comic book indépendant Scott Pilgrim, vraiment si vous avez vu le film, ou que vous n'avez pas vu le film mais que vous n'avez jamais lu Scott Pilgrim, ruez-vous dessus, c'est vraiment une super lecture.
Ça raconte quoi, Scott Pilgrim, pour les gens qui ne connaîtraient pas Scott?
C'est l'histoire d'un ado qui s'appelle Scott, qui a un groupe de musique et qui est amoureux de Ramona Flowers, mais elle a plein d'ex et ses ex ce sont des boss de fin de niveau de jeu vidéo. Et chaque tome du comics va être la route vers l'affrontement avec l'un des ex de Ramona pour enfin lui prouver sa valeur. C'est un seinen, hein, c'est vraiment c'est construit comme un manga, c'est illustré presque comme un manga, mais il y a cette vision occidentale du truc qui fait que ça nous parle aussi énormément. C'est vraiment très très bien. Et puis à côté de ça, on a parlé de zombies et pour moi c'est impossible de pas citer The Walking Dead de Robert Kirkman et Charlie Adlard, édité chez Image Comics depuis début des années 2000, qui maintenant est terminé, même s'il y a des séries spin-off, la trame principale s'est achevée. C'est une œuvre somme, c'est des dizaines de tomes qui suivent un groupe de personnages, particulièrement le personnage de Rick Grimes, depuis le tout début de l'apocalypse zombie jusqu'à des années plus tard. C'est vraiment un comics qui raconte comment l'humanité se reconstruit avec les zombies autour, c'est-à-dire ils disparaissent pas, c'est comment,
ils sont là,
comment on fait avec. Et c'est vraiment l'un des plus grands comic books que j'ai lu de ma vie. C'est absolument fantastique. Ça n'a rien à voir. Ne regardez pas la série télé. lisez ce comic book en noir et blanc qui est fascinant, glaçant, émouvant.
The Walking Dead.
Et c'est, je pense, l'œuvre du genre zombie définitive, tous médias confondus. Voilà.
Ça, c'est un cri du cœur. Si ça ne vous a pas convaincu. Mais en tout cas, c'est deux comic books qui ont été adaptés au cinéma, et par Edgar Wright en 2010. Et Walking Dead, c'est une série qui est encore en cours sur AMC, je crois. En tout cas, voilà. Mais merci beaucoup pour ta recommandation, Joe. Pour ma
part. Alors, quelles sont tes recommandations, cher Thibaut?
Moi, je vais avoir un film comme ça que je vais jeter rapidement sorti également en 2004, mais que j'ai découvert comme ça, de manière un peu impromptue. Et il y a comme ça des films qui vous cueillent.
T'as chialé?
J'ai chialé.
Bah, bien sûr.
C'est des films comme ça qui vous cueillent. Et pour le coup, j'attendais pas grand chose. Et ce film-là, c'est Vera Drake de Mike Leigh.
Mais oui.
Qui raconte, on est à Londres dans les années 50, et qui raconte donc la vie de Vera Drake, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, qui vit avec Stan, son mari, et leurs deux enfants, Sid et Ethel, qui ont pareil 20 ans, 25 ans.
Classe ouvrière.
Classe ouvrière anglaise. Vera, elle est femme de ménage, elle se dépense sans compter pour sa famille et ses voisins, et elle aide beaucoup le quartier, etc., etc. Et dans le plus grand secret, elle aide aussi bénévolement les jeunes femmes du quartier à avorter. Donc elle est ce qu'on appelle une faiseuse d'anges.
Ce film.
Et c'est une histoire vraie, mais en même temps une histoire qui a bien sûr concerné beaucoup de ces femmes, de ces faiseuses d'anges qui étaient vraiment courant quand même, quelque chose qui existait dans les années 50. 50, à l'époque où l'avortement était illégal, on le rappelle, et en France et en Grande-Bretagne. Et donc, ce film de Mike Lee est
magnifique.
En fait, ce film est désarmant. Il est très modeste. Voilà. Il est très pur. Il est très. Il y a une sorte de poésie de la simplicité dans la vie de quartier. Et on passe beaucoup du film à suivre Vera Drake quand elle parle à ses voisins, quand elle mange avec sa famille, quand elle machin. Et subitement, le fait divers, subitement, ouais. La réalité froide, glaçante et horrible vient s'immiscer dans ce quotidien.
Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice principale.
Imelda Staunton, qui est donc Dolores Umbridge dans Harry Potter.
Magnifique.
Désarmant, voilà, au cœur d'une famille, vraiment sur ces petits gestes, cette simplicité, cette réalité et en même temps cette histoire commune et courante qui raconte quelque chose de l'Angleterre et de les sociétés modernes aussi. C'est un film qui va être nommé aux Oscars 3 fois, et pour la réalisation, et pour le scénario, et pour l'actrice principale, donc Imelda Staunton. Bref, c'est bouleversant d'authenticité, c'est sublime, c'est poignant. Ça s'appelle Vera Drake, c'est de Mike Lee, et
bravo,
c'est aussi sorti en 2004.
Bravo pour ce choix.
Bref, voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré à l'année 2004. J'aimerais avant tout remercier mon invité Joe You. Merci beaucoup,
merci
Joe.
Merci à toi, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un plaisir, et merci aux gens qui ont écouté jusqu'au bout.
Ils sont là, ils nous écoutent. Merci en tout cas à toi d'avoir partagé ton cinéma. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio, qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager cet épisode et de suivre le compte Twitter de l'émission pour les dernières infos. Et je rappelle que si vous voulez soutenir Année Lumière, vous pouvez le faire via le site de Utip. Ça m'aide vraiment à produire la meilleure des émissions possibles. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.
Ciao.